Bonsoir, bienvenue à ce nouvel épisode du cours. Comme vous l'avez remarqué, la moyenne d'âge dans l'amphi a diminué, ce qui nous réjouit tous, évidemment. Ma seconde remarque est que, pour des raisons de voyage, je suis obligé d'annuler le cours du 3 avril. Hein. Donc, le prochain cours aura lieu le 27 mars, dans une semaine, et portera à nouveau sur les migrations. Je devais terminer aujourd'hui, mais je continuerai la fois prochaine assez longuement là-dessus. Et le 3 avril sera annulé, est reporté au 17 avril pour cause de voyage. J'en ai profité pour aussi déplacer ce qu'on appelle le cours de clôture, qui aura lieu le 15 mai, je crois, et le colloque aura lieu le 24-25 juin. Mais ce sera tout ça, toutes ces informations seront apportées sur l'affiche qui va être corrigée pour tenir compte de ces nouveaux plans. Je vous prie de m'en excuser. Voilà. Alors aujourd'hui, on va repartir un petit peu et faire le point. Hein. Donc, où est-ce qu'on en est dans cette promenade aléatoire sur les problèmes contemporains et sur ce que peut dire la théorie économique sur ces problèmes, le dernier sur lequel on a passé pas mal de temps, c'est le problème du commerce international. Et comme à l'habitude, je ne prétends pas donner des solutions définitives aux problèmes que nous abordons, loin de là, mais j'ai donné toute une série de coups de projecteur sur des questions de commerce international, en prenant un certain nombre d'angles variés, hein, et en espérant que cette variété d'angles nous éclairera sur le problème. Alors là, quel était l'arrière-plan de ce que j'ai fait ? C'était à la fois la première mondialisation, hein, que je vous ai racontée avec un certain détail au tout début, hein, première mondialisation qui part, comme vous vous en souvenez, qu'on fait partir de 1846, l'abrogation des lois sur les céréales en Angleterre, et qu'on fait se terminer au début du XXe siècle, hein, entre 1900 et 1910. Et j'ai opposé cette première mondialisation à ce que j'ai appelé la seconde mondialisation, c'est-à-dire notre mondialisation, celle dans laquelle nous sommes immergés, et que j'ai fait partir, je crois, de 1990, quelque chose comme ça, en reprenant un petit peu les étapes que j'avais rappelé de ce qui s'est passé depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, naturellement, le point focal, à nouveau, je le dis pour ma raison sociale, ça, c'est théorie économique, hein, et organisation sociale par ailleurs, mais, et donc le point de vue que j'ai pris, naturellement, c'est le point de vue de la théorie économique, c'est celui que je vais prendre aujourd'hui. Hein, et en matière de commerce international, ben ça, c'est ce qui était à l'examen, c'est la théorie du commerce international. Donc je suis revenu un petit peu sur ce qu'était la théorie standard, disons, il y a 50 ans, hein, la théorie qui est associée au nom de Ricardo et Cherolin. Cette théorie standard, dans le cas Ricardo, précède la première mondialisation. Dans le cas Cherolin, elle vient après la première mondialisation, hein, puisque la vision Cherolin du monde s'est imposée après 1920, vers 1930, hein, et elle s'appuie, c'est une vision de la première mondialisation qui est très imprégnée de l'observation de ce qui s'est passé à cette époque-là et qui met en exergue les effets sur de l'extension du commerce sur la modification des prix des facteurs. Hein. Vous vous rappelez cette phrase, hein, ce qu'on échange, ce n'est pas le blé australien contre... pardon, ce n'est pas le blé australien contre le textile anglais, hein, c'est la terre australienne contre le travail anglais. Donc voilà. Ensuite, on est revenu un peu plus près de chez nous, c'est-à-dire qu'on a, j'ai passé en revue ce qu'on appelle la nouvelle théorie du commerce international, qui essaie de coller de plus près à ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde et dans notre mondialisation. Donc l'objectif est de rendre compte des spécificités de cette seconde mondialisation. Comme on l'a vu, ça nous a donné beaucoup de d'éclairage intéressant. Par exemple, cette nouvelle théorie du commerce international met en exergue le rôle des entreprises, le rôle des firmes, le rôle des grandes firmes dans les mouvements commerciaux entre les divers partenaires. Et on a eu au moins deux exposés, l'un par Francis Kramars, l'autre par Peter Neri, qui ont illustré, qui ont développé cette idée, qui est une idée relativement forte. Et que... Maintenant, on a vu aussi qu'on a eu toute une série de points aveugles. Les points aveugles, eh bien, c'est un petit peu, je dirais, les effets Heck-Sherrolline. Tout ce qu'on avait bien compris dans la première mondialisation, on ne le comprend plus bien. Qu'est-ce que fait la seconde mondialisation sur la répartition interne des facteurs dans les pays participants? Alors, évidemment, dans les pays développés, c'est notre question, et dans les pays en développement. Donc, pour ça, on avait repris toute une série de statistiques qui nous montrent, par exemple, l'évolution des revenus aux États-Unis depuis... depuis une vingtaine d'années, selon les catégories. Et on avait dit un certain nombre de choses intéressantes sur lesquelles je ne vais pas revenir. Mais malgré tout, du point de vue théorique, on est relativement désarmé sur cette question. On ne sait pas très bien comment faire pour appréhender les effets à terme de sa mondialisation. Juste une parenthèse, souvent je dis qu'il y a deux choses qu'on sait... je suis en général assez... bienveillant pour ce que font les économistes, par prudence, par exemple, par solidarité aussi. Mais je dis qu'il y a deux choses qu'on ne sait pas faire, on ne sait pas prévoir. La première, c'est les avalanches. Et le deuxième, c'est le mouvement des plaques tectoniques. On ne sait pas prévoir ce qui va très vite. Alors les avalanches, évidemment, la métaphore derrière, c'est la crise, la bulle qui s'effondre, etc. On est assez mauvais, je vous l'ai dit un certain nombre de fois, et j'ai passé beaucoup de cours l'an dernier à en parler. Et on ne sait pas prévoir non plus le mouvement... On apprécie assez mal les mouvements des plaques tectoniques, c'est-à-dire tous les mouvements lents qui produisent des effets, mais à une vitesse extraordinairement faible. C'est ce qui s'est passé au XIXe siècle. On a commencé à comprendre ce qui s'était passé 30 ans après que l'épisode soit terminé. Moi, ça m'a toujours absolument sidéré. Et donc, je crois que là, on a des plaques tectoniques, on apprécie assez mal le mouvement. Autre point relativement aveugle, c'est le problème du progrès technique. Comment le progrès technique est-il en train d'affecter la logique de la mondialisation? Quelle est la part à l'idée initiale qui était, grosso modo, on va tenir compte de Heck-Sherrolline et, en quelque sorte, aux pays en développement, aux Chinois, la production de masse et à nous, la production de progrès technique, et ça ne fonctionne pas comme ça. Donc j'avais un petit peu discuté ça également. Alors pourquoi j'en viens aux migrations? Parce que je l'avais mis sur le programme, imprudemment, et parce que naturellement c'est un sujet complémentaire. Lorsque je vous ai présenté l'opinion de Hollin, sur lequel le commerce est un substitut des migrations, il y a évidemment ça dans la logique Heck-Sherrolline. Et donc à l'arrière-plan, il y a des difficultés semblables, puisque une des difficultés qu'on va rencontrer dans le problème de migration, c'est les effets sur la structure interne de revenus dans les pays d'accueil et dans les pays de départ. Et c'est un petit peu l'ombre portée de la difficulté qu'on a rencontrée sur les effets distributifs de la mondialisation. Alors, c'est un sujet sensible, donc j'essaierai de le traiter avec la neutralité qui s'y est. Ce que je vais faire, c'est d'abord une prise de recul historique sur les migrations au moment de la première mondialisation. Donc je vais revenir sur la première mondialisation, je vais vous parler des migrations au moment de la première mondialisation. Et ensuite, en fin de séance aujourd'hui et la fois prochaine, je vous donnerai un regard théorique sur ces questions. Je prendrai le point de vue qui est le mien, c'est-à-dire je dirai le monde est trop compliqué, on va le simplifier, donc on va faire des modèles. Ces modèles sont... plus compliqué que ce qu'on est capable de comprendre avec notre raisonnement simple, mais beaucoup moins compliqué, beaucoup moins sophistiqué que n'est la réalité. Mais on va essayer de comprendre ce qui se passe dans ces mondes simplifiés, que je ne qualifierai pas d'imaginaire, mais certainement de simplifié. Alors, dernier avertissement, ce n'est pas un sujet sur lequel j'ai personnellement travaillé. Il arrive souvent que je connaisse... beaucoup mieux les sujets dont je parle. Là, c'est vraiment un sujet sur lequel je m'appuie sur des lectures, dont certaines sont des lectures récentes. En ce qui concerne le problème des migrations, tout ce que je vais vous dire, c'est dans l'excellent livre de Kevin O'Rourke et de Jeffrey Williamson, qui s'appelle Globalization and History, qui est paru au MIT Press en 1999. Bon, d'ailleurs, je me suis inspiré pour vous décrire la première globalisation, première mondialisation. Et puis, ce que je dirai la fois prochaine, qui sera beaucoup plus abstrait, hein, est tiré d'un ouvrage de... à Safrazin, Ephraim Sadka et je ne sais plus son prénom, Suwan Kiri, qui s'appelle Migration as Welfare State, qui est paru en 2011. Hein, et j'utilise aussi un certain nombre d'articles de la littérature. Voilà, première question. Donc j'en arrive à ce qui est mon premier thème, les migrations de masse au XIXe siècle. Alors je vais d'abord vous donner un certain nombre de faits, simplement pour mettre ces choses en perspective. Donc après 1820, il y a 60 millions d'Européens qui sont allés en Amérique. Alors naturellement, je pense ici au mouvement migratoire libre, hein, je ne pense pas du tout au mouvement migratoire forcé lié à la traite des Noirs, par exemple, ou des choses comme ça. Hein. Et alors quand est-ce que ça s'est produit et comment ça s'est produit? Eh bien là, vous voyez les indications. Pendant les trois premières décades, donc d'un côté vous prenez l'Europe, de l'autre côté vous prenez l'Amérique, hein. Dans les trois premières décennies. Alors, l'Amérique, c'est à la fois les États-Unis, mais c'est aussi l'Amérique du Sud. Il y a eu beaucoup de migrations vers l'Argentine, vers le Chili, etc. Et donc, qu'est-ce que vous avez eu dans les trois premières décennies? Vous aviez 300 000 Européens par an qui partaient vers l'Amérique. Donc, les trois premières décennies, ça nous amène à près de 1850. Ensuite, c'est passé à 600 000. Et ensuite, environ 1 million au tournant du siècle. Donc, voilà un petit peu la logique de ces... Alors, on peut voir si j'arrive à le lire, mais là, je ne suis pas sûr d'arriver à le lire. Donc, vous voyez, par exemple, les taux d'émigration alors, par décade hein, ou par décennie. J'espère que vous arrivez à lire mieux que moi, mais là, je peux le lire ici. Hein, pour la Hollande, j'ai souligné deux pays. L'un, c'est la Hollande et l'autre, c'est la Suède. Et donc, vous voyez, pour la Hollande, ça va de... 5 pour 1000 par décade, donc ça fait 0,5% par décade, où on voit à peu près ce que ça peut faire. Jusque dans la décennie 1890-1890, ça passe à 12,3, hein, et ça rabaisse un petit peu après. Pour la Suède, ça peut monter jusqu'à, dans la décennie 1890, ça monte à 70 pour 1000 par décade, hein, donc 7% de la population par décade, c'est un mouvement tout à fait considérable, évidemment. Vous voyez que, par exemple, si vous lisez ce tableau, il y a beaucoup d'informations à tirer de ce tableau, hein, qui rassemble beaucoup de statistiques. Hein. Vous voyez, pour la France, on est un pays dans lequel il y a eu très peu d'émigration. Alors, où ça s'est produit? Au Royaume-Uni. Alors, au Royaume-Uni, il y a un effet Irlande. Hein, il y a une famine en Irlande vers 1840 qui a suscité, qui est un des facteurs déclenchant le processus d'immigration. Il y a eu l'Allemagne, il y a eu la Scandinavie, comme le montrent les chiffres que je vous ai indiqués tout à l'heure pour la Suède. Et puis, après 1880, le phénomène est passé à l'Europe du Sud, c'est-à-dire à la... l'Italie, l'Espagne et l'Europe de l'Est. Et donc, il y a des choses très différentes. Hein, 50 par 1000 par décade en moyenne en Irlande et 2 par 1000 en France, hein, pour prendre ce qui est sans doute les extrêmes en moyenne. Alors, la destination dominante, c'est les États-Unis. Mais à nouveau, il y a beaucoup de gens qui vont en Amérique du Sud après 1880. Juste pour ajouter quelques compléments à ce que je viens de dire, à ces migrations qui font passer de l'Europe hors d'Europe, il faut ajouter évidemment des immigrations intra-européennes. Il y a beaucoup de migrations italiennes, par exemple, qui sont migrations intra-européennes, d'ailleurs vers une migration relativement importante vers la France. Et deuxièmement, lorsque vous voyez ces chiffres, il faut mettre en regard les retours. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où les gens y vont pour un certain temps et reviennent, hein, où le taux de retour est 30%, je crois, à la fin du siècle pour justement l'Europe du Sud, des choses comme ça. Alors, qui émigre? Eh bien, ça peut être des ruraux, souvent, ou des urbains récents. C'est souvent des jeunes adultes et essentiellement des hommes. Il y a une migration qui est biaisée vers les jeunes et vers les hommes. Quelles caractéristiques ils ont ? Le plus souvent, ce sont des travailleurs non qualifiés. Et de plus en plus au fur et à mesure du siècle, si j'ai bien compris ce que disent O'Rourke et Williamson. Alors, naturellement, il y a toutes sortes de motivations. On va revenir sur les motivations économiques, hein, telles que il y a des motivations religieuses, politiques et économiques. Alors, donc, pourquoi ont-ils migré ? Alors, j'ai donné d'abord la vision économiste standard et un peu simpliste, et je vais essayer de montrer que les choses sont plus compliquées, même si probablement ça capture une partie des choses. Alors, donc, ce que dit par exemple Robert Lucas, c'est que le 18e et le 19e, les histoires de l'Amérique et de l'Australie montrent la capacité des modèles simples néoclassiques à rendre compte de phénomènes importants. Si nous traitons le travail comme un facteur mobile et la terre comme immobile, nous obtenons un modèle qui prédit exactement les flux d'immigration qui se sont produits et pour exactement la raison, c'est-à-dire pour le différentiel de prix des facteurs qui a motivé ces flux historiques. Et il met un certain nombre de bémols ensuite. Alors, on va voir ce que veut dire comment illustrer cette opinion. Alors, je vais la reprendre ici. Hein. J'ajoute d'ailleurs une citation qui est celle de X. Hein. Les différences en termes d'avantages économiques nets et en particulier les écarts de salaire sont les principales causes de la migration. Hein. Point de vue péremptoire sur lequel on reviendra. Alors, quel serait le modèle qu'on associe à ça ? À nouveau, vous avez là, on va mettre ici en abscisse les salaires dans le Nouveau Monde. Hein. Pardon, ici en ordonnée les salaires dans le Nouveau Monde. Ici en abscisse les salaires dans l'Ancien Monde. On va faire un petit modèle d'équilibre partiel, enfin qui pourrait être équilibre général par ailleurs si on le faisait bien. Et puis là, on a la population mondiale, enfin la force de travail mondiale qui se répartit entre le Nouveau Monde, par exemple, la situation initiale, c'est ici, et l'Ancien Monde. Il y a beaucoup plus de gens dans l'Ancien Monde que dans le Nouveau Monde. Et alors, si vous croyez que ça, c'est l'offre de... C'est le salaire en fonction de... Donc, nous sommes dans un monde dans lequel il y a une offre de travail qui dépend du salaire. Hein, et quand le salaire baisse, l'offre de travail augmente. Et quand le salaire augmente, l'offre de travail baisse. Et on suppose qu'il y a deux courbes qui sont, dont l'une est représentative de ce qui se passe en Europe et l'autre est représentative de ce qui se passe dans le Nouveau Monde. Hein. Alors, donc, la situation initiale, on est ici au point de vue de force de travail. Donc, vous voyez que le salaire dans l'Ancien Monde... Pardon, le salaire dans le Nouveau Monde est élevé. Et si ça, c'est la courbe pour l'Ancien Monde, hein, c'est la courbe de demande cette fois pour l'Europe, donc on la lit comme ça, hein, et le total est ici. Et vous voyez que le salaire dans l'Ancien Monde est faible. Hein, et le rapport est de 1 à 4, d'après mon graphique, qui est sans doute un peu excessif par rapport aux données factuelles. Ensuite, eh bien, qu'est-ce que c'est la migration dans ce modèle ? Dans la migration dans ce modèle, si rien d'autre change, bien entendu, ce qui est une hypothèse extrêmement hasardeuse, eh bien, si on va passer ici, hein, donc il y a ce segment d'Européens qui va dans le Nouveau Monde. Hein, le salaire baisse dans le Nouveau Monde et passe ici, et il augmente dans l'Ancien Monde, hein, par le même effet, il passe ici. Alors, ces effets sont différents. Ici, la courbe, en même temps, comme il y a beaucoup de raisons de supposer, on a un processus de changement structurel et cette courbe d'offre de travail ou de demande de travail agrégée, hein, que l'on utilise pour décrire notre problème, peut se modifier. Alors, évidemment, tout ça, c'est un modèle totalement caricatural, mais il capture une partie de l'intuition des économistes, une intuition standard. Alors, on va revenir sur ce modèle, je vais vous montrer que les choses sont beaucoup plus compliquées, mais que ça ne veut pas dire qu'il y a, du moins, si à nouveau j'en suis Williamson O'Rourke, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait rien de vrai là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a observé ? D'abord, les salaires dans les deux mondes, dans l'Ancien et le Nouveau Monde. Il y a une montée du salaire dans les deux mondes. On a une période, le 19e siècle, dans laquelle il y a une croissance. Alors, on peut la... À nouveau, comme moi, je n'arrive pas à voir sur le... Il y a un tout petit problème. Vous voyez que là, il y a un indice de salaire, par exemple, qui était pour l'Allemagne en 1850 de 52. Et cet indice de salaire va monter à 84 ou 85, je ne suis pas sûr de lire, ou 86 vers 1900 pour l'Allemagne. Donc, il y a monté des salaires tels qu'ils sont mesurés avec les statistiques dont on dispose. Vous le voyez également pour la France. Et en fait, ça vient se caler sur le niveau 100 pour la Grande-Bretagne, qui est le pays où les salaires sont le plus élevés. C'était, comme je vous l'avais dit au moment de la première mondialisation, la Grande-Bretagne, c'est le pays en avance, c'est le pays qui a lancé la mondialisation, c'est le pays qui en a bénéficié le plus et de loin. Je parle de la première mondialisation. Donc vous voyez que il y a une certaine convergence entre les salaires européens et américains. C'est une époque de rattrapage. Par exemple, le ratio du salaire en Hollande et aux États-Unis était de 50. Il y avait 53%, c'est le salaire hollandais par rapport au salaire américain en 1870, selon ces statistiques. Il est passé à 60 en 1890. Ça doit vouloir dire d'ailleurs que le salaire britannique devait être à 80% vers 1910, si je fais un calcul rapide, mais je vais me tromper. Alors, quel est l'effet des salaires ? Alors, il faut d'abord bien voir, il y a l'effet que j'ai donné sur le graphique tout à l'heure, c'est l'effet différentiel de salaire, qui est un facteur d'émigration. On va voir d'ailleurs, il y a toute une série d'études économétriques qui ont été faites, que je vais vous présenter, qui reprennent un peu ces idées. Mais on peut très bien donner au salaire une autre interprétation. Parce qu'il est tout à fait clair qu'au début, l'immigration est contrainte, elle est contrainte pour des raisons de ressources. C'est-à-dire que les migrants n'ont pas de quoi s'acheter un billet, sur un paquebot pour aller aux États-Unis ou pour aller en Argentine. Donc quand le salaire atome à la maison augmente, ça donne en fait, au lieu d'être... de diminuer la tendance à l'émigration, ça l'augmente. Donc il y a un effet. Donc les bénéfices de l'immigration, évidemment, diminuent avec le niveau de développement interne. Ça, c'est l'effet standard. Les coûts sont rendus plus accessibles par le développement. Donc il y a deux facteurs possibles. Donc il va falloir essayer de démêler en regardant les faits. Alors c'est ce qu'ont fait un certain nombre d'études, les historiens économistes sur cette période. Quelles sont les considérations pertinentes ? Bien, il y a si vous voulez regarder les choses, le phénomène à un niveau très agrégé, bien, il y a la différence de salaire, c'est certain. Il faut bien les mesurer, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de travail statistique, et ce travail a été fait, pour autant que je sache bien fait, même si je ne suis évidemment pas bon juge. Hein. Alors, quelles sont les considérations qu'ils ont essayé de mettre en... De singulariser les unes après les autres, hein, et à partir de ça, ils ont essayé de faire de l'économétrie en mettant les flux de migration en fonction des variables explicatives, en le faisant pour tous les pays, en faisant tout un travail absolument considérable et dont je ne suis pas du tout bon juge. Alors, deuxième point, c'est la présence de communautés installées. Ce qu'on constate, c'est que le fait qu'il y ait des migrants qui soient présents à un moment, à un endroit donné, est un facteur explicatif des migrations. C'est-à-dire, si vous allez, c'est les friends effect, hein, l'effet de l'amitié ou l'effet des amis, hein, et ça explique aussi en particulier la persistance. Donc ça, c'est une première catégorie. Évidemment, la diffusion de l'information va avec. Si vous allez aux États-Unis, s'il y a des gens qui y sont allés, il y a une petite chance pour se savoir si ça vaut la peine ou pas. Et plus il y en a qui y sont allés, qui sont de votre région, plus il y a de chances que vous ayez une information là-dessus. Alors, il y a un troisième facteur qui serait l'industrialisation, ce qu'ils ont gardé, c'est-à-dire que l'industrialisation en Europe serait un facteur de moindre attachement à la terre et serait donc conduira une sorte de, ce sera une sorte de sas de l'immigration, hein, de l'émigration, puisque les gens iraient d'abord de leur pays agricole vers la ville dans leur pays, et ensuite émigreraient. Et évidemment, il y a quelque chose qui est important, c'est la démographie, c'est-à-dire quelles sont les forces démographiques, quelles sont les pressions démographiques à l'œuvre dans chacun des pays de départ. Donc, ils ont fait. Là-dessus, ils ont fait une étude économétrique. Hein, les variables explicatives sont celles que je viens de suggérer. Hein, le gap du salaire réel entre départ et destination. La variable pression démographique. Alors, pour ça, à un moment donné, la variable pression démographique est estimée par les taux de natalité 20 ans avant. C'est une variable décalée qui tient compte de l'arrivée sur le marché du travail de gens qui sont nés 20 ans avant. Le niveau d'inscolarisation et le stock de migrants antérieurs. Alors, qu'est-ce qu'ils trouvent ? Bien, il se trouve que l'effet gap salaire réel, alors là, vous voyez l'émigration par décade, hein, et vous avez ici quelque chose au départ, c'est le poids relatif de ces différents facteurs dans la décision de migration, donc qui sont ramenés à 1. Et vous voyez que le ratio salaire est très fort, mais en même temps, il implique c'est un facteur qui conduit à une diminution de l'immigration assez forte, puisqu'il y a processus de rattrapage. Le facteur démographique, qui explique pour la décade numéro 6, à peu près 2 pour 1000 de la migration, est lui aussi fort, très significatif et relativement fort. Et alors là, je crois qu'il y a une erreur entre les deux. Je crois que le stock de migrants est aussi une variable forte et significative. Donc voilà le genre d'étude économétrique que vous pouvez trouver. Donc vous trouverez beaucoup d'informations dans le livre de O'Rourke et Williamson, qui complique quand même pas mal l'histoire initiale, mais ne la détruit pas, si l'on croit du moins à l'économétrie. Donc, maintenant, on va revenir un petit peu à l'explication dont j'étais parti. Je vais revenir, et c'est ce que font Williamson et O'Rourke dans leur livre. Ils reviennent là-dessus, mais avec cette fois, en utilisant un modèle d'équilibre général calculable. Donc, ils vont mettre toutes les données là-dedans, et ils vont calculer des contrefactuels. Qu'est-ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu l'immigration en Amérique du Nord? Qu'est-ce qui s'est passé dans le Nouveau Monde? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Ancien Monde? Exercice évidemment éminemment dangereux, mais exercice fait sérieusement par des gens qui connaissent vraiment bien le sujet et qui comprennent ce qu'on peut faire avec un modèle d'équilibre général calculable. Alors, évidemment, la source de convergence économique, donc ça accroît le salaire dans le pays de départ, ça le ralentit dans le pays d'arrivée. Voilà, c'est l'effet offre-demande que j'ai mis en exergue au départ. Il y a évidemment beaucoup de forces qui contrebalancent ça. Le changement technique. Il pouvait avoir une accumulation du capital vers là où il y a plus de migrants, puisque ça devient plus rentable d'avoir du capital si vous avez plus de migrants. Ça peut être aussi amendé par le fait qui sont les migrants, etc. Alors, je vais juste mettre en exergue la dernière ligne ici. Vous avez ici le Nouveau Monde et vous avez ici l'Ancien Monde. Alors, au début, ce sont des choses complètement factuelles. Et non pas contrefactuel. Le taux de migration net de 1970 à 1910 vers le Nouveau Monde a été de 6 pour 1000 par an. C'est en pour 1000 par an, je ne me trompe pas. Oui, 6 pour 1000 par an. Et le taux d'émigration dans l'Ancien Monde était donc seul de moins 3 pour 1000. Donc ça veut dire que l'Ancien Monde était deux fois plus peuplé aussi. L'impact sur la population pendant cette période a été d'environ 30% sur le Nouveau Monde. C'est-à-dire que la population du Nouveau Monde s'est accrue de 30% liée aux migrations. Et la population de l'Ancien Monde, c'est-à-dire le nôtre, a décru de 11%. Toute chose égale par ailleurs, bien sûr. La contribution à l'accroissement de population a été de 30%. Pour la force de travail, les choses sont un peu différentes, puisque ce n'est pas étonnant, puisque la composition de la migration est très biaisée vers les hommes adultes, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure. Eh bien, dans le Nouveau Monde, la force de travail donc, était de 7,93 pour 1000 par an en accroissement, moins 4 de pertes pour l'Ancien Monde. Alors, je vous le vois là. 4%, et la force de travail cumulée qui a été ajoutée dans cette période dans le Nouveau Monde a été de 40%, donc assez nettement supérieure à l'accroissement de population, et ça, c'est pas étonnant compte tenu de ce que je vous ai dit. Et dans l'Ancien Monde, la perte de la force de travail a diminué de 13%. Alors ensuite, ce sont simplement des statistiques qui sont remises en ordre. Après, ce sont ce qu'ils appellent des contrefactuels. Factuels, c'est ce que donne leur modèle lorsqu'ils comparent ce qui s'est passé, pour lequel il y a des données, et ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu ces migrations. Alors, contrefactuel, donc si je crois leur résultat, l'impact des migrations sur le salaire réel dans le Nouveau Monde a été de moins 12% et de plus 9% dans l'Ancien Monde. qui illustre un tout petit peu le dessin un peu simpliste que j'avais fait ici et qui va dans le même sens. Voilà, c'est ce que je vais m'arrêter là parce que sur en ce qui concerne ces migrations du 19e siècle, hein, c'est ce que disent les gens qui connaissent bien. Je ne dis pas d'ailleurs qu'il n'y ait pas de débat, je ne connais pas suffisamment le sujet pour être tout à fait au courant, mais je crois que je vais clore là ce chapitre. Et je vais passer à un chapitre beaucoup plus délicat qui s'appelle « Les migrations aujourd'hui ». Quand on regarde les choses il y a un siècle, ça a une certaine distance qui les rend beaucoup moins acides, en quelque sorte. Alors là, on va passer à des choses un peu plus acides. Et je vais reprendre un petit peu le modèle standard pour savoir ce qu'il dit. Et la fois prochaine, on le regardera vraiment très sérieusement. Là, je ne vais pas le regarder sérieusement, je vais le prendre un petit peu. Je vais le prendre de façon un peu naïve. Je vais malgré tout faire toute une série de... Ouais, bon, d'accord. Je commence par une série de citations. Hein. D'abord, Adam Smith. « Whatever obstructs the free circulation of labor from one employment to another, obstructs that of the stock likewise, the quantity of stock which can be employed in any branch of business, depending very much upon that of the labor. » Ça, c'est la vision standard. La circulation des travailleurs est une bonne chose. Et moi, Adam Smith, je vous dis pourquoi un peu rapidement. Alors, je vais prendre un autre, beaucoup plus controversé, qui est l'opinion de Milton Friedman. Alors, je ne sais pas quelle était l'émission de Milton Friedman. Friedman a toujours des opinions assez provocatrices. Donc, lui, il dit « L'État-providence est en fait un aimant, un magnet pour l'immigration non qualifiée et qui met en péril l'État-providence. » Alors ça va nous introduire à ce que va nous dire Lionel tout à l'heure. Et Friedman a réellement écrit la chose suivante, parce que je l'ai retrouvé inquiet de tout ça. « You cannot simultaneously have free immigration and a welfare state. » Alors, en fait, sa position, d'après ce que j'ai lu sur le net, où les gens se salpaquent pas mal sur ce sujet de Friedman, sa position est plus complexe. Alors, les méchantes langues diront que, premièrement, le fait que l'on détruise l'État-providence ne lui déplaisait pas nécessairement. Deuxièmement, mais ça, c'est sans doute pas vrai, et deuxièmement, il pense que l'immigration illégale est une des manières de résoudre ce problème. Voilà. J'ai mis Karl Marx aussi, parce que, alors on ne va pas beaucoup l'utiliser aujourd'hui, mais on le rentrera les affaires prochaines. Hein, c'est la vieille idée, au fond, c'est en faisant entrer plus d'ouvriers dans le processus de production que les capitalistes accumulent du capital. Et il introduit l'idée d'armée de réserve. Hein, donc les migrants, armée de réserve, point d'interrogation. Ce n'est pas vraiment ce que je vais voir aujourd'hui, mais cette idée reviendra la fois suivante. On en profitera pour mettre en exergue la différence de vision du monde, de la vision qu'avait Marx, hein, la vision qu'il avait de la nature de la compétition entre les salariés et de la vision qu'ont la théorie standard moderne, hein, mais qui est devenue quand même relativement dominante dans ce domaine. Alors je vais, sur cette question des migrations, je vais d'abord faire un certain nombre d'avertissements. Premièrement, c'est une question sensible, pas inutile de vous faire un dessin, et c'est une question difficile. Alors pourquoi ? Parce que, à mon sens, parce que d'une part, il y a des dimensions non économiques. La dimension non économique, par exemple, accueillir l'étranger, c'est une valeur. Hein. Alors, est-ce qu'il faut accueillir une partie de la misère du monde, toute la misère du monde ? On peut demander à nos anciens premiers ministres, mais il y a une valeur d'accueil. Allant de là, il y a un courant extrêmement minoritaire de gens qui ont la position philosophique que la migration est un droit. C'est un droit de base, une position, à mon avis, extrêmement discutable, mais qui est de nature une position philosophique, hein, valeur morale un petit peu en amont qu'on peut éclairer. Deuxièmement, autre valeur morale, mais autre valeur de sens totalement différent, c'est qu'il y a une valeur sociale de la cohésion. Dans les sociétés démocratiques fonctionnent bien lorsqu'elles sont relativement cohérentes. Donc, c'est une valeur qui vient, en quelque sorte, en face de la valeur suivante. Donc, il y a vraiment un choc de valeurs, ou tout au moins des valeurs contradictoires qui sont invoquées. Deuxièmement, les effets économiques. Alors, il y a évidemment des dimensions économiques. Les dimensions économiques, on va en parler beaucoup. J'ai déjà évoqué quelques-unes sur la rémunération relative et absolue. Alors, je parlerai beaucoup, mais la fois prochaine, je parlerai beaucoup de la dimension, j'aurais dû peut-être l'introduire dès maintenant, mais de la dimension, en quelque sorte, contemporaine du débat sur l'immigration en Europe. Le débat sur l'immigration est très lié au débat sur les retraites et au fait qu'il y a en Europe un déclin démographique. Donc, j'en parlerai beaucoup la fois prochaine. J'en dirai aucun mot aujourd'hui. Donc, il y a des effets économiques qui sont éventuellement forts et il y a des intérêts potentiellement conflictuels, voire potentiellement très conflictuels. Ça dépend. Le modèle que je verrai la prochaine fois nous dira qu'ils sont potentiellement très, éventuellement très conflictuels. Et puis, il y a aussi des effets que je dirais politico-économiques. Vous pouvez interpréter Friedman en disant l'État-providence, il pourrait toujours fonctionner, mais il va y avoir une modification du rapport des forces politiques dans le pays qui va faire qu'il va être mis en cause. Donc, il y a des effets politico-économiques. J'y reviendrai aussi la fois prochaine, pas du tout aujourd'hui. Donc, juste, je rappelle quelque chose que j'avais dit la fois dernière. Le cocktail... valeur-intérêt, lorsqu'il y a des conflits de valeurs et des conflits d'intérêts qui se superposent, c'est toujours assez explosif. Je vous avais donné un exemple qui est le conflit Nord-Sud aux États-Unis, avant la guerre de sécession, où le Nord était très profondément anti-esclavagiste et très profondément protectionniste, et où le Sud était très profondément esclavagiste et très profondément libre-échangiste. Donc il y avait conflit d'intérêts et conflit de valeurs qui superposaient. C'est un exemple parmi d'autres, mais vous en trouverez facilement d'autres. Alors qu'est-ce que peut faire la réflexion économique là-dedans? Alors la première chose que je veux dire là, c'est que les conclusions que vous allez tirer, moi je ne prétends pas du tout que les économistes vont vous dire ce qu'il faut penser sur ce sujet. Je pense que les économistes apportent des matériaux avec lesquels vous pouvez vous forger une opinion, mais je ne pense pas que c'est une solution. Sauf à penser qu'évidemment, toutes les sciences sociales sont des branches de l'économie. Les premiers points, c'est des problèmes philosophiques. Alors, je dis souvent dans les dîners en ville que la philosophie est une branche de l'économie, mais ça ne me vaut pas que en général, ça fait plutôt rire, ce que je peux comprendre. Évidemment, qu'est-ce que peut dire la réflexion économique? Alors, je vais me dire quelles sont les limites externes et les limites internes. Alors, les limites externes de l'approche économique sont... elle ne s'applique évidemment pas au premier registre, sauf à revenir à ma boutade de tout à l'heure, qui est vraiment philosophique en un certain sens. Elle peut éclairer le troisième registre, c'est-à-dire sur l'équilibre politico-économique. Il y a quand même beaucoup de dimensions économiques sur ce point. Et sur le second registre, vous allez me dire, c'est les problèmes économiques. Mais en fait, elle n'a pas du tout le monopole, la réflexion économique, de la réflexion sur le second registre. Exemple, par exemple, si vous regardez les effets économiques à moyen terme, de l'immigration, il dépend de la qualité de ce que vous appelez intégration. Alors, comment on la définit, qu'est-ce qu'une bonne intégration, on peut en discuter, mais c'est vraiment pas un sujet sur lequel les économistes sont compétents. C'est un sujet sur lequel, j'espère, les sociologues sont compétents. Alors, quelles sont les limites internes de l'approche économique? Celles que j'ai données ici. On est dans un domaine où les effets sur la distribution du revenu, c'est un domaine difficile. Ça renvoie aux mêmes questions que les effets sur la distribution du revenu du commerce. C'est pour ça que j'ai un peu lié les deux. Et ce n'est pas des domaines où on est très bon. C'est des domaines dans lesquels ce qui se passe relève du mouvement des plaques tectoniques, comme je disais tout à l'heure. Donc il y a une certaine opacité des mécanismes et donc une certaine opacité des gains et des pertes pour beaucoup de questions. Alors quels sont les mérites de la science lugubre dont je vous parle aujourd'hui, dismal science? C'est comme d'habitude, elle est lugubre, mais elle donne un regard un peu incontournable. Pas toujours très joyeux, mais un peu incontournable à défaut d'être décisif. Donc je vais vous donner quelques coups de projecteur. La première chose, je vais essayer d'illustrer l'idée d'Adam Smith, mais en la compliquant un peu quand même, en la piquant en queue et en introduisant l'idée que dans un premier temps, il y a des gagnants et des perdants dans les processus d'immigration. Et je ferai une brève incursion dans l'État-providence. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et puis la fois prochaine, je reviendrai sur les questions, cette fois avec Friedman et Marx à l'arrière-plan, sur l'économie et l'économie politique des migrations vue du Nord. Je me limiterai à regarder ce sujet vue du Nord, enfin dans la métaphore habituelle, le Nord c'est les pays riches, c'est le Sud, etc. Et j'essaierai de le voir de façon statique et dynamique, et je reprendrai un certain nombre d'analyses existantes que je ne trouve pas parfaites, mais qui sont qui ont le mérite d'exister. Alors, là, on va revenir à un petit dessin vraiment tout simple. D'habitude, quand je fais du travail analytique, je présente des choses un peu plus compliquées. Là, je suis désolé, je m'excuse de la, du simplisme de mon regard. Mais je me suis déjà fait pardonner dans le passé, à l'avance. Alors, on va faire j'ai un article en référence de Sine, je crois que c'est 2005. Hein. Vous avez, dans le monde, vous avez deux pays ou deux blocs. Hein. Le Nord, hein, le pays développé, et le Sud, qui est un pays en développement. Donc, je vais refaire à peu près l'argument que j'avais esquissé, que j'avais attribué à Lucas. Hein, je ne suis pas du tout sûr c'est ça que Lucas avait en tête. Mais... Et dans chaque entité, il y a deux groupes. Hein. Les travailleurs non qualifiés, donc j'aurai les travailleurs non qualifiés du Nord et les travailleurs non qualifiés du Sud. Donc je vais observer l'immigration des travailleurs non qualifiés du Sud vers le Nord. Chose qui d'ailleurs est un peu caricaturale parce qu'un certain nombre de migrants du Sud sont des travailleurs qualifiés ou plus qualifiés que la moyenne des gens qui sont dans leur pays. Mais enfin, peu importe, donc on va faire ça. Et qui c'est le reste du monde ? Ben, le reste du monde, c'est ce que j'appelle les créanciers résiduels. Hein, je peux le compliquer plus ou moins. Alors ça peut être la terre, que si j'étais au 19e, ça peut être le capital. Il est un des créanciers résiduels, évidemment. Ça peut être le travail qualifié, c'est l'interprétation que je vais prendre. Hein. Et là, je mets ici le salaire, et ici, je mets le... Comme tout à l'heure, là, c'est la quantité de travail dans le Nord. Hein, L étoile, c'est la quantité de travail dans le Nord. Et puis, je mesure la quantité de travail dans le Sud. Je pars d'un point indéfini, je la mesure dans cette direction-là. Donc, quand la quantité de travail dans le Nord passe d'ici à ici, ça veut dire qu'il y a cette quantité de travailleurs du Sud qui sont allés vers le Nord. Alors, donc, première courbe... la productivité marginale du travail non qualifié dans le Nord. Hein. Deuxième courbe, la productivité marginale du travail non qualifié dans le Sud. Hein. Mais vous voyez, naturellement, elle augmente quand je vais dans cette direction, parce que quand je vais dans cette direction, il y a de moins en moins de travailleurs dans le Sud, donc il y a de plus en plus de salaires éventuellement. Et puis, au lieu de cette courbe, je vais la remplacer en fait par cette courbe-là, hein, qui tient compte du fait qu'il y a des coûts de migration. Hein. C'est-à-dire qu'à ce niveau de salaire dans le Nord, les travailleurs qualifiés qui viennent dans le Nord ne sont pas donnés par l'intersection de cette droite avec celle-ci, comme s'il devrait être le cas, mais par le niveau qui est ici. Hein. Donc cette courbe tient compte des coûts de migration entre le Sud et le Nord. Vous attirez moins de gens du Sud à un certain salaire que vous ne l'attireriez s'il n'y avait pas ces coûts de migration. C'est pour des choses comme ça. Alors que ce monde a l'avantage d'être extraordinairement simple. Alors oui, naturellement là-dessus, j'ai une catégorie de travail. C'est évidemment totalement simpliste. Pas d'effet démographique. Hein, et j'ai deux facteurs. C'est évidemment très caricatural, même si je ne précise pas le second. Alors quel est la théorie simpliste que je vais revenir, et sur laquelle je vais revenir, qui est la même que celle de tout à l'heure. Hein. Initialement, on a comme salaire W étoile dans le Nord, avec la quantité de travailleurs dans le Nord qui est égale à L étoile. Voilà ceci. Et dans le Sud, eh bien, on a W double étoile avec la quantité de travail de travailleurs qui n'est pas indiquée ici. Donc les salaires sont beaucoup plus élevés au Nord. Maintenant, on autorise les migrations. Hein, donc, les migrations vont conduire au salaire oméga prime, il n'y a plus de migration. Hein, et au salaire oméga prime, l'offre égale la demande de travail. Donc, le volume de migration est ici. Et le salaire auquel on parvient est ici, oméga prime, qui égalise l'offre et la demande de travail non qualifié dans le Nord, et qui égalise également l'offre et la demande de travail non qualifié. Enfin, vous avez le salaire du Sud et aussi égalise l'offre et la demande de travail non qualifié dans le Sud, compte tenu des coûts de migration. Alors, pourquoi ça c'est bien selon X et selon l'économie standard ? Ben parce que au coût de migration près, mais si on oublie un petit peu les coûts de migration, ça c'est une solution c'est vraiment l'argumentaire l'argumentaire d'Adam Smith. Hein, si vous empêchez ces migrations, vous empêchez de créer de la valeur, quelque part, d'une certaine manière. Donc, on est au first best. Alors, premièrement, avec ces migrations, le monde y gagne. Hein, c'est-à-dire le produit mondial brut augmente. Pourquoi vous transférez des gens d'un endroit où c'est qualifié à un endroit où ils sont peu productifs, à un endroit où ils sont plus productifs, où le mondial brut augmente. Qui plus est, le nouvel équilibre est efficace. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire mieux du point de vue bien-être en un certain sens. C'est-à-dire qu'il est efficace au sens de Pareto. C'est-à-dire qu'on ne peut pas augmenter le bien-être d'un des groupes d'agents sans diminuer celui d'un autre, hein, puisqu'on est dans ce monde suffisamment simple pour que ceci soit vrai. Alors, il faut bien voir que ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que tout le monde y gagne. Ça veut dire qu'il y a moyen de mettre en place des transferts qui feront que tout le monde y gagne. Dans ce monde ici, c'est extrêmement facile de mettre en place des transferts qui font que tout le monde y gagne. Naturellement, un des vrais problèmes, alors on l'avait vu en matière de commerce international, une des questions que j'avais posées, c'est peut-on toujours redistribuer les gains à la spécialisation et à l'échange ? Et je vous avais montré que la réponse était à tout le moins ambiguë. Alors on va maintenant regarder quand même un peu les gagnants et les perdants pour voir si on sait faire les... Dans mon histoire très simple, les gagnants et les perdants, les migrants, ils gagnent. Puisque les migrants passent voient augmenter leur salaire de façon significative. Alors, qu'est-ce qui perd ici ? Bien, évidemment, c'est le salaire, le travail non qualifié du Nord, puisque son salaire passe de oméga étoile à oméga prime. Donc, ce qu'il perd est donné par ce carré-là, hein, du point de vue du bien-être. Alors, le créancier résiduel du Nord, ou les créanciers résiduels du Nord, eux, ils gagnent. Pourquoi ? Bien, parce que, grosso modo, leur surplus est un petit peu ce qui est sous cette courbe de demande. Et donc, c'est plus grand. Et deuxièmement, ce qu'ils gagnent est plus grand que ce que perdent les travailleurs non qualifiés. C'est ça le deuxième théorème de l'économie du bien-être. Donc, ils sont capables, ils peuvent compenser les perdants ici. Alors, par contre, si on part vers le pays de départ, les choses se passent différemment. C'est-à-dire que le créancier des résiduels du pays de départ, il perd, ça c'est clair, hein, puisqu'il perd il perd du facteur complémentaire et donc sa rémunération diminue. Ça aussi, c'est une vision économiste du monde sur laquelle on pourra discuter. Mais évidemment, les travailleurs non qualifiés, ils gagnent. Mais l'effet total sur le Sud, ceux qui restent dans le Sud, est négatif. Sauf si les partants rapatrient une partie de leurs revenus. S'ils rapatrient tous leurs revenus, ils y gagnent les gagnants du Sud peuvent compenser les perdants du Sud. Voilà. Donc voilà, ça pose un peu la question. Alors maintenant, je vais mettre un once, simplement une once d'État-providence. On va mettre un État-providence ex post. Ici, il n'y avait pas d'État-providence. Et l'État-providence ex post, c'est qu'on va donner à chacun un revenu de remplacement grand R, hein, qui est ici en W prime et W étoile. Et donc, si vous ne trouvez pas de travail, il n'y a pas des utilités au travail. Hein, les gens travaillent dès que le salaire est égal à grand R. Mais s'ils ne trouvent pas un travail, ils ont une indemnité qui leur donne un salaire grand R. Alors, qui est accessible à tous, aux migrants comme aux... Alors, évidemment, il y aura plus de migrants, hein, puisque tous les gens qui sont... la quantité de migrants qui va être attirée par cette situation est donnée ici. Il y aura plus de migrants et il va y avoir une destruction de jobs intérieurs par rapport à oméga prime qui va créer du chômage. Mais le chômage est réparti entre les insiders et les outsiders, enfin entre les migrants et les natifs. Alors, quelle est l'évaluation par rapport à l'équilibre de laisser-faire ? C'est-à-dire, l'équilibre de laisser-faire est ici. Hein. En termes de bien-être, le travail non qualifié du Nord, il gagne, parce qu'il est rémunéré au taux grand R, qu'il soit au chômage ou pas, au taux grand R, donc il fait mieux que ça. Les migrants, ils gagnent aussi. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour le monde ? Ça dépend. Si grand R égale W prime, c'était les situations initiales, le monde y gagne, puisqu'on est à la situation dont on a dit que le monde est gagné. Si R égale W étoile, il est clair que le monde y perd. Donc, entre les deux, il y a un moment où le monde cesse d'y gagner, si j'en crois cette histoire. Voilà, donc, c'est... Alors, pourquoi ce n'est pas satisfaisant ? C'est ce que je vais dire maintenant. Pourquoi ce n'est pas satisfaisant ? Bien sûr, parce que je n'ai pas fait sérieusement d'une théorie de l'État-providence. Il n'y avait pas un État-providence avant, il n'y a pas d'État-providence après. Je ne m'interroge pas sur les... modification de la stabilité de l'État-providence en fonction du changement économique et donc dans le changement dans le positionnement politique des membres de la société. Alors, donc, il y a des limites techniques de l'analyse. Évidemment, il y a beaucoup d'autres dimensions économiques que celles introduites ici, je vous l'ai déjà dit. Deux facteurs, c'est évidemment trop caricatural dans le Nord, et si on veut comprendre l'intrication Nord-Sud, il faut évidemment beaucoup plus de deux facteurs, et il faut probablement prendre un appel vers les... Il faut fermer le modèle sur le monde aussi, d'une certaine manière. Alors deuxièmement, les deux facteurs donnent une vision caricaturale des migrations Sud-Nord. C'est évident que ce n'est pas ça, les migrations Sud-Nord. Un des problèmes du Sud, c'est qu'ils ont une partie de leurs travailleurs qualifiés qui migrent vers le Nord, même où ils ont parfois seulement, ils obtiennent simplement des postes de travailleurs non qualifiés. Ça, c'est une dimension importante que je laisse complètement à côté de la fosse. Donc, je cherche sous l'analyse, j'ai un modèle simpliste, mais qui est dans l'esprit de l'analyse économique standard. Enfin, c'est une première introduction. Il introduit évidemment trois questions. Migration et le produit mondial brut. Migration et le bien-être dans le pays d'accueil, et il montre qu'il y a des facteurs conflictuels, qui dans ce monde sont probablement trop conflictuels, voire caricaturaux. Et il y a le problème des migrations et le bien-être dans le pays de départ, qu'il ne faut pas oublier et qu'on oublie souvent dans ces discussions sur les migrations. Alors maintenant, on est quand même assez loin. Je voudrais réintroduire Friedman. Je voudrais introduire la question. Je voudrais avoir un vrai État-providence dans ce monde. Et je voudrais savoir si la stabilité de l'État-providence est menacée par les migrations. La stabilité politique, l'équilibre politico-économique. Eh bien, donc, je vais... C'est ce que je ferai la fois prochaine. Alors, je vais être moins ambitieux. Je vais me limiter au point de vue du Nord. On va regarder le monde vu du Nord. Et on va d'abord regarder un État-providence simplifié dans lequel il y aura un système redistributif qui est déterminé à l'issue d'un vote démocratique où il y a des différences d'opinion et différents intérêts. Et puis on va introduire l'immigration et on va d'abord essayer de voir à immigration donnée comment ça change l'équilibre politico-économique. Deuxièmement, on va essayer de voir quelles sont les opinions de chacune des catégories sur les migrations. Alors on verra qu'il y en a qui veulent, qui voudraient qu'on autorise les migrations qualifiées, et d'autres qui pensent qu'il faut plutôt privilégier les migrations non qualifiées ou un mélange des deux. Donc on racontera une histoire qui, tout en étant d'une certaine manière à nouveau relativement caricaturale, nous rapprochera malgré tout de nous donnera un certain éclairage sur les débats du monde réel. Et c'est l'objectif auquel je me tiendrai. Alors, il se trouve que j'ai pratiquement terminé, donc pour une fois, je suis en avance. Donc, nous allons prendre dans... Il est 26, nous allons prendre à 31, par exemple, pour écouter Lionel Ragot, qui va nous parler de... l'immigration et les finances publiques, le cas de la France. Donc, autant moi j'ai été un peu irréel, autant lui va rentrer dans le concret. Donc j'espère que ça fera un bon complément. Donc je vous rappelle que le prochain cours aura lieu le 27, que le cours du 3 avril n'aura pas lieu et sera reporté au 17 avril, et que tout ceci sera porté sur la prochaine affiche qui devrait sortir incessamment sous peu. Donc, merci beaucoup.